Impromptus littéraires.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Le bourreau et victime en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer et terminer la lecture du roman de Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit.
Après avoir parcouru la vie de Lucille enfant, adolescente, nous allons découvrir sa vie de femme qui commence à son mariage avec Gabriel.
Madame rêve d'atomise et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame Rêve.
Ma mère et mon père ont vécu presque 7 années ensemble, pour l'essentiel dans un appartement de la rue Auguste Lançon, dans une partie du 13e arrondissement que je connais mal. Je n'y suis jamais retournée. Lucille ne travaillait pas. Elle s'occupait de ses deux filles, moi d'abord, puis Manon, ma sœur, née 4 ans après moi. Lucille et Gabriel, vus de l'extérieur, formaient ce qu'on appelle un beau couple.
J'écris Lucille avec mes yeux d'enfant, grandie trop vite. J'écris ce mystère qu'elle a toujours été pour moi, à la fois si présente et si lointaine. Elle qui, lorsque j'ai eu 10 ans, ne m'a jamais plus prise dans ses bras.
Lorsque Lucille quitta Gabriel, elle avait 26 ans. Plus tard, Lucille s'installa avec un autre homme dans un appartement de la rue Mathurin-Régnier, dans le 15e arrondissement, Tibère. Il venait d'un autre monde et nous inspirait un vague sentiment de peur. À notre manière, nous menions une vie régulière, les choses se répétaient et se ressemblaient. Lucille travaillait à Paris, Tibère s'occupait des courses et de la maison. Un week-end sur deux, Gabriel venait nous chercher.
Si les époques se résument au lieu qui les contient, hier reste pour moi l'emblème d'un avant. Avant l'inquiétude, avant la peur, avant que Lucille déraille. Nous y avons vécu 4 ans, 2 années avec Tibère, puis 2 années sans lui. Lucille l'a quitté, je crois, ou ils se sont séparés. Tibère était pour elle l'homme du départ, de la transition. C'est à cette époque que Lucille rencontra Nebo, dont elle tomba éperdument amoureuse et qui resta jusqu'à la fin de sa vie son grand amour meurtri. Nebo resta quelques mois auprès de Lucille, puis la quitta. Il laissa derrière lui une empreinte douloureuse et énigmatique et Lucille tout entière à son chagrin.
Dès lors que Lucille est devenue mère, c'est-à-dire dès lors que je suis apparue dans la vie de Lucille, j'ai abandonné toute tentative de récit objectif à la troisième personne. Sans doute m'a-t-il semblé que le jeu pouvait s'intégrer dans le récit lui-même, tenter de l'assumer. C'est un leurre, bien entendu. Qu'ai-je vu du haut de mes 6 mois, de mes 4 ans, de mes 10 ans, et même de mes 40? Rien. Et pourtant, je continue de dérouler l'histoire de ma mère. Je mêle à mon regard d'enfant celui de l'adulte que je suis devenue. Je m'accroche à ce projet, ou bien elle s'accroche à moi. Je ne sais lequel de nous deux est le plus encombrant. J'aimerais pouvoir raconter Manon, l'inclure davantage dans mon récit, mais il me semble que c'est impossible sans prendre le risque de la trahir. L'écriture ne donne accès à rien. La vérité est que je ne suis pas sûre de tenir la distance, d'arriver au bout, que j'ai le sentiment d'être piégée par ma propre démarche, dont l'impérieuse nécessité n'est plus si évidente. mais rien pourtant ne peut m'arrêter. Parfois, je rêve que je reviens à la fiction. Je me roule dedans, j'invente, j'élucubre, j'imagine, j'opte pour le plus romanesque, le moins vraisemblable. J'ajoute quelques péripéties, m'offre des digressions. Je suis mes chemins de traverse, je m'affranchis du passé et de son impossible vérité.
À la fin de l'été 1976, nous déménageâmes pour Bagneux, plus proche de Paris, où Lucile avait trouvé un appartement à louer, dans une petite résidence aux façades blanches. Lucile n'avait pas 30 ans. Il me semble qu'alors elle était encore contenue dans un groupe, une bande, faisait partie d'une sorte de nébuleuse aux ramifications multiples qui unissait ses frères et sœurs, ses amis, les leurs, et s'articulait autour de quelques lieux phares.
Peu après notre installation à Bagneux, Lucile fit la connaissance de Nils, un garçon plus jeune qu'elle. Nils devint l'amant de Lucile. Une sorte d'apaisement est attaché à ses souvenirs. Aujourd'hui, lorsque je tente de comprendre le lien qui unissait Lucile à Nils, il me semble qu'il revêt cette ambivalence. Ma mère éprouva une forme de paix, de soulagement, à côtoyer d'aussi près quelqu'un dont le tourment était au moins aussi douloureux que le sien.
Le tourment de Nils n'était pas fini puisqu'il se suicida. Il s'était tiré une balle dans la bouche. Il avait 21 ans. Lucile se rendit à son enterrement. Nils sortit de notre vie comme il y était entré.
Rêve d'archipel, vague perpétuelle, sismique et sensuelle. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh ciel, oh ciel.
Un jour de printemps, un appel nous a pris la mort de Milo. Au fond d'un bois ou d'une clairière, le frère de Lucide s'était tiré une balle dans la tête. Je ne pris pas tout de suite la mesure de l'information. Lorsque je l'annonçai à mon père, la mort de Milo obligeait à déclarer les week-ends, il demanda à parler à Lucile. Cette fois, je ne pus rien ignorer de la douleur qui ravageait ma famille. Elle saturait l'air comme de la poudre d'explosifs. Dans les semaines qui suivirent, je m'inquiétais davantage encore pour Lucile. Cette peur ne me quittait pas, m'empêchait parfois de respirer. J'ignorais ce qu'elle signifiait. Peu à peu, mon angoisse se formula. J'avais peur de la trouver morte. Chaque fois que je tournais la clé dans la porte, voilà à quoi je pensais, et si elle aussi l'avait fait. Cela devint une obsession. Lorsque je pénétrais dans l'appartement, seul ou accompagné de Tadrina, mes yeux se posaient d'abord sur la moquette du salon. Les morts gisaient à terre, je l'avais entendu, au détour des conversations. Puis, j'allais vérifier dans sa chambre. À partir de là, je pouvais respirer. Peu de temps après la mort de son frère, à l'aide d'un rouge à lèvres couleur sang, Lucile avait écrit sur le miroir de notre salle de bain « Je vais craquer ». Face à ce miroir, nous nous coiffions chaque matin, Manon et moi, cette menace tatouée sur le visage. Si l'on s'intéresse à la trajectoire de Lucile, à ce qui l'a conduit, dans les mois qui suivront, à sortir pour de bon du réel, rien de cela ne peut être ignoré. À chacun des frères et sœurs de Lucile, j'ai demandé de me parler de Milo, disparu si jeune. Dans cette fratrie de 9 enfants, il est le 3e frère mort. J'ignore si ses douleurs s'additionnent ou se multiplient, mais je pense que pour une même famille, cela commence à faire beaucoup. Elisabeth de me répondre, avec l'humour provocateur qui est le sien. « Oh, tu sais, on commençait à avoir l'habitude. » Écrire sur sa famille est sans aucun doute le moyen le plus sûr de se fâcher avec elle. Les frères et sœurs de Lucile n'ont aucune envie de lire ce que je viens de retranscrire, ni ce que je m'apprête éventuellement à en dire. Je le sens dans la tension qui entoure maintenant mon projet, et la certitude que j'ai de les blesser me perturbe plus qu'aucune autre. Aujourd'hui, il se demande sans doute ce que je vais faire de ça, de quelle manière je vais l'aborder, jusqu'où je suis prête à aller. Dès lors que je tente de m'approcher de Lucille, je ne peux faire l'économie des relations qu'elle a eues avec son père, ou plutôt qu'il a eues avec elle. Je me dois au minimum de poser la question. Or, la question n'est pas indolore. Je tire à bout portant, et je le sais. La peur suffit-elle à se taire ? Devant un croque-monsieur un peu impressionné, ma sœur m'assure de son inconditionnel soutien. « Il faut aller au bout, me dit-elle, ne rien laisser dans l'ombre. » Je repars convaincue que le seul chemin possible au point où j'en suis, au point où nous en sommes tous, est celui qui passe par ce point.
On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, loin,
on est loin.
Madame rêve ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère.
Autre lourd secret que va nous livrer Delphine de Vigan, oh combien tabou et douloureux. À 32 ans, Lucille écrit que son père l'a violée. Elle envoie le texte à ses parents et à ses frères et sœurs, nous le donne à lire. Je suis dans l'attente du drame. Pourtant, il ne se passe rien. Quelques mois plus tard, Lucille s'est rétractée. Elle parlait alors d'une relation incestuelle plutôt qu'incestueuse, réfutait le récit du passage à l'acte. Comme des milliers de familles, la mienne s'est accommodée du doute ou s'en est affranchie. Un viol fantasmé par Lucille, voilà tout. Cela rendait les choses respirables. Or, il y avait si peu d'air. Des années plus tard, alors que Manon et moi étions devenus adultes, à une époque où Lucille allait bien, ma sœur lui a reposé la question. Lucille lui a répondu que oui, cela était arrivé, et que personne n'avait réagi à la lecture du texte qu'elle avait envoyé. Le texte est resté lettre morte, et Lucille n'a reçu en retour qu'un silence pétrifié.
Lucille et Georges sont morts tous les deux. Il est trop tard pour connaître la vérité. Lucille était bipolaire, et il semblerait que l'inceste figure parmi les facteurs déclenchants de la maladie. Je n'ai pas trouvé d'études statistiques sur ce sujet. Le texte, que Lucille a laissé parmi ses affaires, raconte que Georges lui a fait prendre un somnifère, puis l'a violé. Quand Manon est revenue sur ce sujet, des années plus tard, Lucille lui a raconté que Georges l'avait obligée à s'asseoir sur le bord de lit, puis avait commencé à la caresser. De terreur, elle s'était évanouie. Il n'était plus question de somnifères. C'est d'ailleurs, à peu de choses près, cette version qu'elle écrit en 1984, lorsque le psychanalyste qui la suit depuis des mois et se heurte à son silence, lui demande de tenir un journal. Samedi 29 décembre 1984. Aujourd'hui, mon père m'a offert une montre ronde pour cacher mon tatouage au poignet qu'il n'aime pas. Moi, j'aime mon tatouage. Il fait partie de moi-même. Mon père ne sait pas qu'il est à l'origine de ce tatouage. 10h10. C'est l'heure à laquelle je me suis réveillée dans leur chambre après avoir passé une nuit avec lui et qu'il m'a peut-être violée. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu très peur et que je me suis évanouie. C'est la fois où j'ai eu le plus peur de ma vie.
Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue.
Lucille travaille. Ses filles vont à l'école jusqu'au jour où des signes inquiétants apparaissent chez Lucille. Elle se dit télépathe, menace ses filles, pleure beaucoup, dépense sans compter jusqu'à la scène terrible du 31 janvier 1980.
Le 31 janvier 1980 représente pour moi une forme de rupture originelle, de celle dont la mémoire semble rester intacte, ancrée dans le corps, celle dont on sait qu'elles ne s'effaceront jamais tout à fait, pas plus que la douleur qui leur est attachée. Plus tard, la peur sera assimilée par le corps, circulera dans le sang, se diluera, deviendra partie prenante de son fonctionnement. Pour Lucille, je suis sûre d'une chose. Il y aura un avant et un après. J'ai écrit le premier internement de Lucille. Tout cela n'avait plus aucune importance. Ma mère était devenue folle. Ma mère était atteinte d'une bouffée délirante. Ma mère ne tournait pas rond. Le mot bouffée me semblait entretenir une familiarité suspecte avec le mot bouffon. Je ne voyais rien de comique dans tout cela. Je ne comprenais pas ce qu'on tentait de nous expliquer. Lucille était très fatiguée. Elle devait se reposer. Elle n'avait pas voulu faire de mal à Manon. Elle n'était pas dans un état normal. Elle nous aimait de tout son cœur. Mais ses nerfs avaient lâché. Les choses allaient s'arranger. Les choses finissaient toujours par s'arranger. Le soir, nous prîmes comme prévu le train pour la Normandie, où notre père vivait toujours avec sa femme et notre petit frère. Le front appuyé sur la vitre, je regardais défiler ce paysage que nous connaissions presque par cœur. Je fermais les yeux, à la recherche d'un temps volé au temps, où rien de tout cela n'était arrivé.
Lucille non plus n'a rien oublié de ce jour de janvier 1980, lorsqu'elle écrit « Ce jour, ma vie a basculé de manière irréversible. Je prends des vessies pour des lanternes, les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Je ne fais plus la part du réel et de l'imaginaire. Je vais passer 48 heures d'enfer avant d'arriver à l'hôpital psychiatrique, pendant lesquelles je vais me déplacer, parler, agir, outrepasser sans désemparer. C'est du temps qui va aller très loin et me coûter très cher. C'est du temps irrémédiable. »
Aujourd'hui, la fin du mois de janvier est pour moi un genre de période à risque. J'ai découvert Lucille chez elle le 30 janvier. C'est quelque chose qui est ancré dans la mémoire du corps. Le récit que ma sœur a fait de ce qu'elle avait vécu ce matin-là, seule avec Lucille, m'a bouleversée. Je l'avais oublié en partie, sans doute parce qu'il contient des détails insupportables. Manon avait 9 ans et demi. Elle n'a fait l'objet d'aucune assistance psychologique. Elle est restée là, dans la solitude de ce qui ne pouvait être dit. Cela lui appartient. Cela aussi, sans doute, est constitutif de sa personne. J'écris à cause du 31 janvier 1980. L'origine de l'écriture se situe là. Je le sais de manière confuse. Dans ces quelques heures qui ont fait basculer nos vies, dans les jours qui les ont précédés et le temps d'isolement qui a suivi.
Après plusieurs mois, alors que son état semblait enfin stabilisé, Lucille finit par sortir de la clinique. Peu de temps avant l'été, le moment vint pour nous de la revoir. Arrivés à la gare Montparnasse, nous avons marché côte à côte en direction de la sortie. La peur l'emportait sur la joie. Lucille était devenue une toute petite chose friable, recollée, rafistolée, irréparable en vérité. De toutes les images que j'ai gardées de ma mère, celle-ci est sans doute la plus douloureuse. Pendant plusieurs années, Lucille vécut sous camisole chimique.
J'écris ce livre parce que j'ai la force aujourd'hui de m'arrêter sur ce qui me traverse et parfois m'envahit, parce que je veux savoir ce que je transmets, parce que je veux cesser d'avoir peur qu'il nous arrive quelque chose, comme si nous vivions sous l'emprise d'une malédiction. Pouvoir profiter de ma chance, de mon énergie, de ma joie, sans penser que quelque chose de terrible va nous anéantir et que la douleur toujours nous attendra dans l'ombre. Approcher Lucille avec toutes les précautions du monde ou à bras raccourcis, c'est aussi approcher les autres, les vivants, au risque d'ailleurs de m'en écarter. À ma sœur, j'ai demandé comme aux autres de me parler de Lucille, de me prêter ses souvenirs. Manon m'a raconté ce matin de janvier et puis l'impossibilité dans laquelle elle avait été pendant plusieurs mois de s'abandonner au sommeil en présence de Lucille. Ces nuits de petite fille hantée par la peur de voir sa mère surgir dans sa chambre pour terminer ce qu'elle avait commencé. Cela m'a bouleversée. Manon m'a raconté de son point de vue les années qui ont suivi, les spectatrices muettes que nous sommes devenues, incapable de mettre fin à la douleur de Lucille.
Des pages écrites par Lucille témoignent de sa souffrance. À propos des week-ends où nous recommençons à venir chez elle, elle écrit « L'organisation de ces deux jours me soucie toute la quinzaine. Les retrouvailles à la gare Montparnasse, le train qui a souvent du retard, ce qu'on va manger, surtout ce qu'on va faire, se dire. Avec elle aussi, j'ai la chic coupée. Je ne sais plus comment leur parler. Je suis tombée de mon piédestal de mère. Même vis-à-vis d'elle, je n'existe plus. Pourtant, les voir est mon seul profond plaisir-douleur dans cette vie. Désespoir de ces jours écoulés les uns après les autres, sans fil conducteur ou coupé en morceaux. J'éprouve encore des sentiments pour mes enfants, mais je ne peux pas l'exprimer. Je n'exprime plus rien. Je suis devenue laide. Je m'en fous. Rien ne m'intéresse, sinon d'arriver enfin à l'heure de dormir avec les médicaments. Le réveil est horrible. Le moment où je passe de l'inconscient au conscient est un déchirement. Se forcer à prendre une douche, trouver des oripeaux acceptables.
Oh, on est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, on est loin. Madame Rêve.
Lucille s'était retirée, loin de nous, loin de tout. Elle n'était plus qu'une figurante dans un film dont le scénario semblait lui échapper chaque jour davantage. Stationnée au milieu du plateau, n'entendait pas qu'on lui demandait de revenir au centre ou au contraire de s'écarter. Ne captait plus la lumière, s'en moquait, cherchait un endroit où elle pourrait passer totalement inaperçue et somnolait les yeux ouverts, sans pour autant être considérée comme absente ni démissionnaire. Le brouillard dans lequel Lucille était entrée dura près de 10 ans. Travailler devint pour elle une épreuve comme l'était le reste de sa vie. Et chaque fin de week-end, l'idée d'une nouvelle semaine l'étranglait d'angoisse et lui paraissait infranchissable. Je crois qu'après coup, lorsque Lucille en est sortie, ces 10 années ne constituèrent pour elle qu'un seul bloc, sans taille et sans relief, dont elle ne pouvait distinguer les différentes périodes. Un seul bloc dont elle n'avait gardé qu'un souvenir douloureux, empesé, uniformément opaque, bien qu'elle ait connu au cours de cette période deux nouvelles phases maniaques.
La première eut lieu après mon bac, alors que je revenais tout juste vivre à Paris et que je m'étais installée avec elle dans le petit deux pièces de la rue des Entrepreneurs. Lucille menait cette vie monotone et régulière qui dissimulait mal son désordre intérieur, sortait parfois de sa torpeur, par à-coup, de manière brutale, au détour d'une phrase ou d'une lubie. Peu à peu apparurent les signes d'une rechute que je ne tardais pas à reconnaître. Je l'attendis jusque tard dans la nuit. Elle finit par surgir avec ce regard qui venait de si loin, me raconta une folle soirée. En peu de temps, quelque chose s'organisa qui conduisit Lucille dans un pavillon de l'hôpital Sainte-Anne où elle passa plusieurs semaines. Lucille ne se fit pas prier pour repartir. Là-bas, elle se sentait bien, à l'abri d'elle-même. Elle était si fatiguée. Lorsque Lucille sortit de l'hôpital, quelques semaines plus tard, je quittai son appartement. Je ne voulais plus vivre avec elle. Lucille reprit son travail, où l'on eut la clémence de la garder. Manon recommença ses visites de week-end. À cette même époque, Lucille rencontra Edgar, un peintre aquarelliste dévasté par l'alcool, que le talent n'avait sauvé de rien. Edgar devint son amant. Ils burent ensemble des litres et des litres de bière. Lucille enfla à vue d'œil et s'éloigna davantage encore.
Avant que Lucille ne revienne une fois encore au délire, nous avons connu toutes les trois une période de douceur, une étrange parenthèse, un avant-goût de paix. Mais une nouvelle fois, rattrapée par le ressac de sa douleur et de sa culpabilité, Lucille fit voler en éclats les prémices d'un après, les indices d'une reconstruction possible.
Ainsi, après 10 années de marécage, Lucille revint de loin, revint de tout. laissa derrière elle ses heures parmi les ombres. Lucille, qui n'avait jamais pu monter à la corde, se hissa hors des profondeurs, sans que l'on sût véritablement comment, en vertu de quel élan, de quelle énergie, de quel ultime instinct de survie. Ce fut un combat, ce fut une longue et progressive remontée vers la lumière, ce fut un incroyable tour de force, une spectaculaire leçon de vie, ce fut une renaissance. Cette fois, le traitement de Lucille n'avait pas dressé autour d'elle l'incontournable forteresse sur ordonnance dans laquelle elle avait été si longtemps murée. Peut-être était-ce une question de lithium et de molécules, mais, au-delà de la chimie, j'aime à croire que quelque chose en elle avait ressurgi, était entré en résistance. Quiconque rencontrait Lucie pour la première fois percevait à la fois sa beauté et la trace indélébile d'une chute. Lucille avançait sur un fil, gracieuse, un rien provocatrice, sans filet.
Madame rêve, loin au ciel. On est loin, Madame rêve.
Manon et moi sommes devenus des adultes, fortes de l'amour de Lucille, fragile d'avoir appris trop tôt que la vie pouvait basculer sans préavis, que rien autour ne serait tout à fait stable.
Lorsque ma fille est née et qu'on m'a tendu son petit corps pour que je le prenne contre moi, j'ai prononcé à voix haute ces mots qui m'ont horrifiée. Ma puce. Ma puce, c'est ainsi que m'appelait Lucille lorsque j'étais enfant, et bien plus tard encore dans des moments de confidence ou d'apaisement. Mon bébé était une fille et mes premiers mots furent ma puce. À partir de l'âge de 14 ans, ne pas ressembler à ma mère a constitué pour moi une préoccupation majeure, un objectif prioritaire. Je ne voulais en rien être semblable à Lucille, ni sur le plan physique, ni sur le plan psychologique, et recevais comme une insulte toute comparaison hâtive établie entre nous. Pendant des années, j'avais eu honte de ma mère devant les autres, et j'avais eu honte d'avoir honte. Pendant des années, j'avais tenté de me fabriquer mes propres gestes, ma propre démarche, de m'éloigner du spectre qu'elle représentait à mes yeux. Même maintenant qu'elle allait mieux, je ne voulais pas davantage lui être semblable. Je voulais être l'inverse d'elle, refusais de suivre ses traces. J'évitais au contraire toute similitude et m'appliquais à emprunter les directions les plus opposées. Alors, pendant quelques mois, me reprenant sans cesse, je me suis efforcée d'appeler ma fille par toutes sortes de petits noms ridicules. Et puis j'ai fini par capituler. J'appelais ma fille ma puce, voilà tout, et sans doute par contagion, son père aussi. Lorsque ma fille eut quelques mois, je la confiai à ma mère. Lucille aimait prendre ma fille dans ses bras, s'occuper d'elle, revendiquer son rôle de grand-mère.
Pendant toutes les années 1990, Lucille essaie de reprendre sa vie en main. Elle s'investit auprès de ses petits-enfants. Elle rebondit dans son parcours professionnel à 49 ans. Elle s'assume matériellement. Elle écrit. Oui, Lucille a fini par sortir de 10 ans d'hébétude, d'anesthésie. Oui, Lucille a repris des études, a repris son examen, a retrouvé son refuge. Lucille est devenue une assistante sociale hors pair, investie dans son travail et d'une grande efficacité. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est qu'un aspect de la vérité. Car au fond, je sais que Lucille est toujours restée suspendue au-dessus du vide et ne l'a jamais quittée des yeux. Même plus tard, même quand elle a été elle-même en position de recevoir la détresse des autres et de tenter d'y remédier.
Lucille commença sa carrière d'assistante sociale à l'hôpital Avicenne de Bobigny, au sein de l'unité SIDA. Elle savait qu'elle n'avait pas choisi le plus facile, mais elle souhaitait se confronter à son nouveau métier, en prendre, au-delà des bonnes intentions, la véritable mesure. Elle y resta 4 années, se lia d'amitié avec certaines de ses collègues, ne compta pas ses heures, se révéla compétente et pugnace. Entre son appartement rempli de fleurs et l'exigence de son métier, il nous sembla que Lucille avait trouvé une forme d'équilibre. À la veille de l'été 2003, Lucille vit arriver dans son service une jeune femme de 34 ans, toxicomane, malade du sida, victime de maltraitance et selon toute vraisemblance contrainte à la prostitution. L'état de la jeune femme et son histoire heurtèrent Lucille de plein fouet. L'image de cette jeune femme continua de la hanter. L'été caniculaire fit le reste. À cause de la chaleur, Lucille dut diminuer son traitement et en quelques semaines fut rattrapée par des motifs paranoïaques. Lucille était en pleine crise et n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. À l'arrivée des pompiers, elle se sauva dans l'escalier, refusa de les suivre, se réfugia dans l'ascenseur où ces derniers finirent par la récupérer. Après 15 années stables, Lucille avait rechuté.
Partout où Lucille est passée dans les 15 ou 20 dernières années de sa vie, y compris lors de sa dernière courte hospitalisation, elle s'est fait des amis. Lucille exerçait autour d'elle une forme d'attraction fantaisiste et saugrenue, mêlée d'un grand esprit de sérieux. Cela lui valut des rencontres singulières et de longues amitiés. Mes enfants d'abord, puis plus tard les filles de Manon l'appelèrent Lucille, à sa demande, grand-mère Lucille. Les choses avaient le mérite d'être claires. Lucille revendiquait son statut comme un fait d'armes. Il s'agissait en effet pour elle d'une victoire, avoir tenu jusque-là. Lucille fut une grand-mère anxieuse et ultra-protectrice, multiplia auprès de nos enfants les angoisses qu'elle n'avait pas eues pour nous.
Madame rêve ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs.
À la veille de ses 60 ans, Lucille effectua les démarches nécessaires pour repousser son départ en retraite et continuer à travailler à l'hôpital. Elle ne disposait pas des annuités qui lui auraient permis de toucher une pension à taux plein, se plaisait dans son poste et redoutait l'inactivité. Lucille m'appela un soir et m'annonça sur ce ton catégorique et fébrile qui n'appartenait qu'à elle, qu'elle avait un cancer du poumon. Lucille fut opérée. Je ne m'attarderai pas sur les quelques mois que Lucille passa en chimiothérapie. Pendant tout ce temps, je crois que Manon et moi avons été aussi présentes que nous pouvions l'être, chacune à notre manière. Je ne sais plus à quel moment exactement nous avons appris que Liane avait un cancer du pancréas et qu'il ne lui restait plus que quelques mois à vivre. Lucille, sortie de cette année de traitement, exsangue et épuisée.
Alors qu'elle se remet tout juste de ses traitements, sa mère meurt. Delphine dit « Je n'ai pas vu sa douleur, je n'ai pas vu sa détresse. Longtemps cette idée m'a obsédée, je n'ai pas été au bon endroit. » Nous sommes de retour au début du livre, c'est l'horrible découverte.
Lucille m'a appelée ce vendredi matin. C'était la dernière fois et elle le savait. En moins de 2 mois, nous avions perdu Liane et Lucille. Cette fois encore, il m'a semblé que cela faisait beaucoup. Lucille a eu le courage d'écrire à ses filles une lettre qui leur a permis de garder une image qui lui ressemble, même si une question reste posée. Pourquoi ?
La lettre était glissée dans un sac en carton gris, dans lequel nous avons trouvé 2 autres paquets pour Manon et moi, chacun contenant un pendentif en cristal de chez Lalique, en forme de cœur, accroché à un cordon de tissu.
Mes filles chéries, voici venu le moment. Je suis au bout du rouleau et je suis fichue. Le scanner, c'est très bien, mais il faut aussi écouter son corps. Je ne dis jamais à personne la totalité de mes maux. Je dis à l'un, à l'une, et les autres, à différents autres. Je suis très fatiguée. Ma vie est difficile et ne peut que se détériorer. Depuis que j'ai pris cette décision, je me sens sereine, même si je redoute le passage. Vous êtes toutes les deux les personnes que j'ai le plus aimées au monde, et j'ai fait de mon mieux possible, croyez-le. Serrez bien contre vous, vos beaux enfants. Lucille. P.S. C'est mieux avec une chaînette. Vous pouvez changer la couleur, mais assez rapidement avant la fin des soldes, toutes les deux ensemble si nécessaire, car il n'y a qu'un ticket cadeau. Je sais bien que ça va vous faire de la peine, Mais c'est inéluctable à plus ou moins de temps, et je préfère mourir vivante.
J'ai relu cette lettre des dizaines de fois, à la recherche d'un indice, d'un détail, d'un message au-delà du message, quelque chose qui m'eût échappé. J'ai lu et relu la pudeur de Lucille, cette élégance qui consiste à mêler le prosaïque à la douleur, l'anecdote à l'essentiel. Cette lettre lui ressemble, et je sais aujourd'hui combien elle nous a transmis, à l'une et à l'autre, cette capacité à s'emparer du dérisoire, du trivial, pour tenter de s'élever au-dessus des brouillards.
Rien ne s'oppose à la nuit est un livre intense, bouleversant. Une enquête au cœur de la mémoire familiale de Delphine de Vigan, où les secrets les plus enfouis côtoient les souvenirs les plus lumineux. C'est le bel hommage d'une fille à sa mère qui l'a retrouvée après l'avoir mise à distance. C'est une histoire à la fois solaire et infernale, livrée avec sincérité.
Ils vont des petits, ils vont des ennuyeux.
Mais si ce roman rencontre un tel succès, c'est qu'à travers sa propre vie, l'auteur nous raconte nos vies avec nos failles et nos propres blessures.
Nous avons lu des extraits de « Rien ne s'oppose à la nuit » de Delphine de Vigan, roman publié chez Jean-Claude Lattès en 2011. Ces extraits ont été lus par Annie et Denise. À la technique, Vincent. Cette lecture a été accompagnée par la chanson de Bachung, Osez Joséphine, titre qui a accompagné Delphine de Vigan tout au long de son écriture.
Et rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
À bientôt.
Usez les souliers, usez les uriers, soyez ma muse. Et que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez